adultes et le pouvoir qu'ils et elles exercent sur les enfants, les mineurs. Elle interroge l'autorité des parents, des profs et se rebelle. Grandir n'est pas simple et accepter cette autorité sans la remettre en question non plus. Mérène va apprendre au cours d'un cheminement qui l'amènera aux confins de la réalité. Tout d'abord déstabilisée par la situation, Reine se révolte, crie, s'enferme dans la salle de bain, déclenche un début de feu dans sa classe, fugue. Et les parents sont visiblement largués, ne comprenant pas ce qui se passe. Trop occupés par leur vie personnelle, où finalement Reine a l'impression de ne tenir qu'une place secondaire. Chaque fois qu'elle veut provoquer une réconciliation, c'est un fiasco. Le cheminement se fait au cours de la seconde partie du film. Reine semble avoir compris l'inéluctable, sans toutefois l'accepter. Sa dernière tentative de réconcilier ses parents va échouer, et après la conversation qu'elle a avec son père, elle réalise que c'est peine perdue. Suit alors son errance dans la forêt, qui symbolise la confusion dans laquelle elle se trouve. Puis, il y a la rencontre avec le couple âgé qu'elle regarde comme des grands-parents qu'elle se choisirait. Elle leur promet d'ailleurs de revenir aux prochaines vacances et reprend sa marche dans la forêt jusqu'à un lac où des barques chargées de divinités de paille s'enflamment. Les rêves et la réalité se mêlent au cours d'un long plan-séquence magnifique. Shinji Somai est considéré comme l'un des plus grands cinéastes japonais de son époque et sans doute le plus méconnu en dehors du Japon. Déménagement est sorti en 1993 et sera enfin en salle, en copie restaurée, le 25 octobre.
Petit garçon né blanc, avantage à la naissance, rien fait spécial pour ça, j'ai pas de mode d'emploi, juste né là où il faut, dans l'hémisphère, donc pour celui qui mange, celui du bas, pour en devenir toujours plus gras, alors peut-être même que dans 30 ans, je serai riche et bien portant, je pourrais même faire les lois et être au-dessus à la fois, être parmi les 1%, et garder tout le monde de haut, et quand on possède autant, dépossède tous les autres. Nous partout à 10, que fait la peau. Quand je rentre seul après minuit, pas besoin d'acheter de tampons alors que ça devrait être gratuit. Et quand je dis non, c'est d'accord, peu importe comment je m'habille. J'ai pas d'injonction au corps, ni à fonder une famille. Et j'évite aux faciès, les contrôles, les mains aux fesses. Social est la logique, on voit qu'elle est pas symétrique. Mais partout t'attises, que fait la police quand d'autres disent c'est comme ça et rien ne changera. Mais tralali, tralala, on les écoute. Serait presque un talent, rien fait spécial pour ça, j'ai toujours pas de mode d'emploi, alors à tous ces avantages, ça vous dit on les partage, à qui a ça en commun d'être un humain.
Samedi prochain, nous parlerons de cinéma, mais pas seulement, l'enlèvement de Marco Bellocchio, le théorème de Marguerite de Anna Novion, Portrait fantôme de Kléber Mendoza, Filio, MMXX de Christy Puyu, à l'intérieur de Vassili Katsouvis. Nous parlerons également de DVD et nous parlerons de bouquins. Très très bonne semaine et bien sûr, tenez bon.
La colère gronde, le chômage s'aggrave, les prix s'emballent, les loyers crèvent le plafond. Et pourtant, le président, je ne dirai pas lequel, avait promis monts et merveilles. La révolte et la révolution sont imminentes. L'heure est grave. Ce chef d'État se rend compte de la situation et palindromiste en fait part à son épouse. Ève, le résolu populo se relève. Ève, le résolu populo se relève. Un grand moment de lucidité renversante.
Et voilà, ouverture comme à l'accoutumée par un palindrome de Gérard Durand, le gérant Durard. Gérard, en mourant, t'aurais pu me prévenir, toi qui étais membre de l'Union pacifiste, t'aurais pu me prévenir que pour la guerre, ils avaient inventé des règles. Si, il y a des règles pour la guerre. T'as pas le droit de tirer sur un hôpital, sauf si tu te trompes. T'as pas le droit de tirer sur une école, sauf s'il y a peut-être des militaires derrière. T'as pas le droit de tirer sur des civils, sauf s'il y a peut-être des militaires planqués parmi eux. T'as pas le droit de tirer sur des civils, sauf si t'as Dieu avec toi. Enfin, ça, il me semble que c'est pas une règle qu'ils ont mis, mais c'est une règle qu'on rajoute, tu sais, comme Jérôme y rajoutait dans la cour de récré, quand il avait l'impression qu'il allait perdre. Et puis, il y a une règle aussi à la guerre, c'est... On a dit, il paraît qu'il faut que la réponse soit proportionnée. Ah, proportionnée, ça veut dire quoi ? Quand un fou d'odieux égorge une vieille dame, ça veut dire qu'il faut trancher juste une demi-carotide en face ? Ça veut dire quoi proportionner quand les bombes tombent un peu au hasard ? Alors ça veut dire en proportion. Moi je suis matheux. Un, c'est une proportion. Œil pour œil, dent pour dent, comme dans leur putain de texte. La proportion d'ailleurs, ça peut être un petit peu plus que un. Tu te venges, un petit peu plus fort. Et tu sais que la riposte sera proportionnée avec aussi un coefficient un peu plus fort. Et puis la riposte de la riposte, parce qu'il y a une riposte de la riposte et une riposte de la riposte de la riposte, elle l'est aussi. Et à chaque fois, ça augmente. Et la litanie des victimes commence. Tu sais, les victimes au début, on commence à les compter. Alors quand on compte, par exemple en hébreu, ben on a l'impression qu'on dit les noms des morts. Hachat, Shtahim, Shalosh, Arba, Shamesh, Shesh, Sheva, Shmon. Quand on compte en arabe, on a l'impression aussi qu'on appelle les morts Wahid, Itnan, Talata, Arba, Hamsa, Sita, Saba, Tamania. Et puis après, quand on arrive à, je sais pas moi, quand on arrive à 20, ça fait comme un autobus entier qui est disparu. Eshrim chez les uns, Ishrun chez les autres. Et puis, quand les morts, quand on arrive à 100, on dit « Meha » ou on dit « Meha ». Ça se ressemble. T'as vu, Gérard ? Quand les morts sont de plus en plus nombreux, ça se ressemble de plus en plus. Quand il y a 1000 morts, chez les uns on dit « Elef », chez les autres on dit « Alif ». Elef, Alif, Shalom, Salam. On compte et en plus, arrivé à 1000, ça ressemble à la première lettre de l'alphabet. Ça veut dire qu'ils vont recommencer. Ça veut dire qu'ils vont recommencer.
Je sais, là-bas tes sœurs, tes frères, sur un petit bout de terre, où il n'y a pas eu de silence depuis tant d'années. Là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, il y a comme une ressemblance, et pourtant tu mourrais au fusil. Chez ses amis de France, on a montré du zèle, on a fait la vaisselle sans casser d'assiette. Tu m'invites à la danse, le vin donne des ailes, la terre est un peu molle, on s'envole. Fais-moi rire comme tu sais. Et si. Je sais, là-bas tes sœurs, tes frères, là-bas mes sœurs, mes frères, sur un petit bout de terre, il y a comme une ressemblance, il y a comme une ressemblance.
Eh oui, je vous l'ai déjà passé la semaine dernière et la semaine dernière, cette chanson de Daniel Messia, il y a comme une ressemblance sous-titrée Hassan, parce qu'elle est tellement belle et elle est tellement vraie aussi dans le même temps. Dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques, ben dis donc Evelyne, il y a du monde autour de la table.
Ben oui, parce que peut-être que le studio, il faudrait l'agrandir un peu. Bon, voilà. Ben, je sais pas, mais on pose la question là. Il faudrait
on va aller à
demander
Radio France.
Des pétitions là pour avoir un peu de sous et agrandir le studio. Ben oui, aujourd'hui. Alors aujourd'hui, c'est, j'allais dire, ben, ça va être la poésie et la poésie sur scène aussi avec Jacques Elkoubi. Et puis il y a Fabienne aussi qui est avec Jacques, et la poésie avec Rémi. Alors tu me dis si je prononce bien, parce que ça c'est ma spécialité, de mal prononcer les noms de famille. Rémi Carnoche,
c'est ça? Ouais.
Ah c'est ça. D'accord.
D'ailleurs il y a plusieurs Carnoche, Carnouk, Carnoche. Ouais.
Et c'est quelle d'origine?
Ben, ukrainienne.
Ah ouais,
ouais.
Ukrainienne.
Ouais.
Ah d'accord.
Donc c'est une transcription du cyrillique.
Ah, ouais. Ukrainienne. Ah, ouais. Ça vient de loin parce que...
Ça vient d'Odessa, oui.
Ah, d'Odessa.
Ouais.
D'accord. Ah oui, c'est bien. Et puis, Evelyne.
Oui.
C'est la première fois que je te rencontre, enfin, il me semble. Alors, je te tutoie quand même.
Oui, on s'est vu quand même un petit peu.
Oui, on s'est... Il y a longtemps, voilà, c'est ça, oui. Ben, ton nom, parce que tu es écrivaine.
Evelyne Cole.
Evelyne Cole, voilà. Et Emmanuelle Granger,
oui.
Écrivaine aussi, oui. Journaliste, comédienne.
Ah non, journaliste,
non.
Pas encore.
Tu ne sortiras ça pas d'ici venir. Sans faire un papier, ah. Comme ça, ça sera bon.
Voilà, ça y est, on m'a recrutée.
Ouais. Ah, ben d'accord. Oh, ben, c'est tellement difficile que ça de devenir journaliste. Enfin, journaliste, écrire des articles, c'est pas très difficile. Hein. Et il me semble d'ailleurs que tu en as écrit un, hein, derrière le livre de... je sais plus. La Palpite.
Mm-hmm.
Ben, c'est...
Non, de derrière...
Voilà.
Oui, derrière La Palpite.
Le dos du livre,
oui,
c'est pas mal.
Oui,
c'est bien. C'est une belle présentation.
Oui, il a été tronqué un peu le texte.
Ah bon.
Oui, ça va.
Voilà, et puis donc Fabienne Elkoubi, chanteuse, qui va faire un spectacle prochainement.
Oui, avec... je vais passer en soutien à l'UPF, à Publico.
L'Union Pacifiste.
L'Union Pacifiste, voilà.
Oui. Voilà. Quel jour?
C'est le 26 novembre.
26 novembre,
oui. C'est d'accord. Une journée de soutien et on sera plusieurs artistes.
Voilà. C'est bien, il faudra le redire pour que les gens leur journée. C'est un dimanche, ça tombe ou un samedi?
C'est un dimanche.
Un dimanche, ça, c'est parfait. C'est mieux pour les gens qui travaillent, quoi. Et puis, Jacques, qui remet l'enfer de Henri Barbusse sur scène.
Sur scène.
Voilà.
Cette fois-ci au studio Maribel, théâtre du gymnase. Voilà.
Voilà.
Tous les lundis.
Tous les lundis à 19h30.
19h30. Jusqu'au 18 décembre.
Et ça dure à peu près 1h15, 1h...
20, 25.
Ah oui, quand même.
Voilà, en mais il y a des respirations, chants,
danse. C'est un travail presque, je dirais, pas athlétique, mais... Enfin, je veux
athlétique,
dire,
si.
C'est ça.
Hein, si. Parce que... Un athlète à la fois du verbe et du corps, parce que c'est très physique.
Ah, c'est très physique, hein.
Mm-hmm.
C'est vraiment très
beaucoup
physique.
Beaucoup gestuel, oui.
Oui. Et puis c'est, comment dire... c'est un seul en scène, mais c'est pas un seul en scène où là c'est un c'est, oui comme on dit c'est physique, tu n'es pas comment dire un conteur, tu es vraiment dans le personnage, quoi.
Tout à fait.
Hein, c'est ça.
Et j'endosse tous les personnages qu'ils voient. qui en regarde plus, par son oui. petit trou.
Voilà. Et ça, c'est... Je vous le recommande. Hein. C'est très...
Ah oui,
c'est
moi, fort, je vais y aller.
Hein. C'est très fort. Je te recommande, Anne. Hein.
Oui, d'accord.
Mais non, mais...
Oui, mais t'as raison.
Mais oui, oui, oui. D'ailleurs, juste une petite parenthèse. Alors, Anne est chroniqueuse de théâtre. Hein.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Voilà.
Bonjour.
Juste une petite parenthèse. Hier, j'ai vu un spectacle...
au théâtre de
Nesle. Une première mise en scène d'une jeune femme qui est comédienne également, qui avait joué dans La bouteille à la mer de Valérie Znati. Je l'avais vue dans une mise en scène de Camille Azard. Et là, elle a fait une mise en scène d'un auteur irlandais. Je crois que c'est, je ne me souviens plus de son nom, Brian Friel, ou je ne sais plus.
Friel, oui.
Hein?
C'est ça qui a écrit dans sa lune, la sœur.
Voilà, et je l'ai vu hier.
C'est très bien comme texte.
Je l'ai vu hier et j'ai trouvé la mise en scène superbe, vraiment superbe. J'étais étonnée parce que c'est une première mise en scène et elles sont 5 femmes et 2 hommes sur scène et ça raconte... c'est une histoire familiale quelque part ce sont des histoires qui peuvent avoir de l'écho chez beaucoup de gens parce que ça raconte des faits que la plupart du temps on ne raconte pas finalement, ce sont les petits non-dits dans les familles, on n'en raconte pas, oui, enfin secret de famille mais pas avec la lourdeur du titre secret de famille. Mm-hmm. En fait, c'est pas que c'est vraiment des secrets, mais on n'en parle pas.
Voilà,
on n'en
oui.
parle
mm-hmm.
pas parce que c'est... parce que les gens, la plupart du temps, n'ont pas... Oui, il y a pudeur. Les gens n'ont pas toujours envie de parler des problèmes familiaux, de ceci, cela. Mais ça montre aussi l'histoire d'une famille qui se... composée de 5 filles d'ailleurs. Mmh. Alors on ne dit pas tout, on ne sait pas pourquoi elles sont vieilles filles, et ils ne racontent pas tout. Mmh. Mais tout ressort du jeu des actrices et puis on sent qu'il y a beaucoup d'humanité dans cette pièce. Mmh. Voilà. Et ça. Et simplicité aussi. Voilà. C'est pas. J'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai beaucoup aimé. Et c'est pour ça que j'en parle, parce que je conseille d'aller le voir et que ça se termine le 5 novembre. Voilà.
Au théâtre de Nesle.
Au théâtre de Nesle. Et moi, j'aime bien encourager les jeunes.
Compagnies.
Les jeunes compagnies, parce qu'elle vient d'ouvrir sa compagnie. Elle a quoi, 30 ans, 35 ans, même pas. Voilà. Et elle mérite de continuer, quoi.
Et Emmanuel et moi, on a joué ensemble.
Dans
la forêt de Ostrowski, qui est une pièce magnifique, mmh. où Emmanuel faisait le rôle principal, était magnifique, et c'était Guy-Pierre Coulot qui l'avait mis en scène. Voilà.
Ah, donc, d'accord.
C'est sympathique qu'on se retrouve aujourd'hui.
Ah, oui. Mais oui, mais c'est ça, c'est un peu comme leur berge espagnole, de temps en temps, il y a des
Et des retrouvailles.
Voilà. Mais il fait chaud, hein, tout à coup. Hein,
oui, parce que on est nombreux.
Oui, mais c'est bien, c'est de la chaleur humaine.
Voilà. Donc, si vous voulez des verres d'eau, hein, c'est possible. Je vais porter des verres d'eau.
Attends, je vais y aller.
Si tu veux, je veux bien. Et donc, alors, c'est une genre de petite carte blanche à Rémi Carnoche, qui est déjà venu ici il y a plusieurs fois.
Oui, oui, plusieurs fois. Ben, Nicolas me connaît bien.
Hein. Ah oui, oui, il sourit. Il te connaît bien. Et mais tous les auditeurs ou auditrices ne te connaissent pas forcément.
Hein, ouais.
Hein. Alors, j'allais dire quelque chose qui peut être désagréable.
Ouais,
est-ce
vas-y.
Que. Pas de je pense que. Oui, je pense que tu es un auteur connu.
Non, non, pas connu. Non,
non voilà, c'est ça. Si, tu es connu, mais oui. Pas par tout le monde. Hein, pas par tout le monde. Et. Ben justement, c'est pour ça, l'intérêt d'une émission comme ça, c'est pour que on sache quand même que Rémi Carnoche existe en tant qu'écrivain, poète, ouais. Qui est parolier, etc.
Ouais.
Voilà, parce que j'ai regardé donc la bibliographie que tu m'as envoyée et je me suis aperçue, alors là, j'étais étonnée parce que je me suis dit quand même 1980, ça fait 43 ans quand même.
Ah ouais, je suis vieux, ouais.
Non, mais c'est pas ça. Mais c'est que tu as commencé à être publié en 1980.
Oui, oui, je croyais chez Donald en plus. Je croyais que c'était à l'autoroute. Oui, ouais, absolument. Ouais.
Ouais. Et c'est quand même. C'est un grand. C'est presque toute ta vie que tu écris. Enfin, tu écris depuis toujours.
Oui, à peu près, avec des blancs, avec des crises, avec des absences. Ouais.
Ouais, ouais. Oui. Ouais. C'est un. Comment dire. C'est comme tes, c'est comme les chaussures que tu as à ton pied. Il faut que tu.
Ah, faut pas les regarder. D'ailleurs. Ouais.
Il faut. En fait, c'est une respiration pour toi l'écriture. Un moyen de respirer.
Ouais, on peut dire ça. Ouais, c'est un travail. Ouais. C'est un long travail. Ça a mis du temps quoi à arriver. Ouais.
Ouais. Ça. Ouais. On peut dire que tu es un écrivain chevronné. Enfin. Enfin, oui. tu as de la pratique quoi. 40 ans.
Ah oui, en même temps, je doute si je me. Oui, en même temps, je suis plein de doutes. Ouais, mais bien sûr, ouais.
Bah si, parce
oui,
que.
Oui, j'ai de la technique, oui, oui.
Il me semble, oui. Hein, parce que ça m'arrive ouais. de lire des gens qui écrivent.
Bien sûr. C'est-à-dire non, mais bien sûr.
Il y a beaucoup de gens qui écrivent sûr. Et ils pensent que parce qu'ils ont envie d'écrire.
Non, c'est un travail.
C'est ça.
C'est un travail, fait. Et puis il faut connaître les bases, quoi. Bien sûr, comme un musicien doit connaître les notes, ne doit pas chanter trop faux et être en mesure, quoi.
Ouais.
En gros, c'est ça. Hein.
Oui, c'est
le
ça.
Minimum requis.
C'est-à-dire que. C'est quoi le minimum requis?
Eh ben ça.
Les bases, c'est quoi?
Bon, les bases, c'est quand même d'avoir envie. Hein. C'est ça qu'il faut essayer de préserver.
D'accord.
Quoi.
D'accord.
Donc. D'avoir envie de continuer.
Et puis, être lisible, est-ce que c'est une.
Ça, en ce moment, je travaille un texte où j'essaie d'être lisible. Voilà. Je me suis mis.
Non, mais quand je dis ça, être lisible, c'est-à-dire.
Non, mais c'est pas une blague, c'est vrai. En plus, c'est enfin, une blague, mais.
On a beau dire qu'on. Écrire, parce qu'on a envie d'exprimer des choses qu'on ne peut pas exprimer dans la vie courante. C'est comme au théâtre. Au théâtre, on gueule, on assassine son voisin, mais dans la vie courante, on ne peut pas.
Non,
mais dans la vie courante, on ne peut pas. On n'a pas le droit.
Mais là, je t'ai passé des livres soft. Je suis allé assez loin dans ces assassinats et ces choses-là.
Ouais, tout ah, après, oui. Ouais. Ah oui. Ouais. Voilà. C'est plus soft.
Pas
c'est...
plus de 9 ouais, hein, dans soft. Le cerveau de la beaucoup famille, il me semble, non
hein
9 morts dans le cerveau de la famille.
Oui, le cerveau de la famille. Oui.
9 morts. Voilà, en littérature, on peut se permettre de dire certaines choses. Mais dans la vie courante, on a vite fait de. Hein? Quand on pense à Nietzsche, hein, qui a été déclaré fou, il était peut-être, effectivement.
Sur
mais,
la fin,
ouais. Ouais, et il s'est jeté, je crois, au cou d'un cheval. Il l'a entouré, enfin bref, etc.
Et le cheval l'a balancé, c'est ça ?
Non, je crois pas. Enfin bref, il y a cette image de Nietzsche.
Il lui a rendu son baiser.
Nietzsche.
J'étais pas le premier, moi.
Il y a Nietzsche qui se jette, sur le cheval et il l'entoure. Il dit je t'aime ou je sais pas un truc un peu délirant.
Moi j'aime les chevaux.
Ouais. Alors, voilà, c'est un peu délirant. On a dit bon, il est fou. Et voilà, mais. Quelque part, on peut, dans la littérature, on peut exprimer ce genre de choses.
Encore que, hein, y a un petit mouvement de recul en ce moment qui est un peu bizarre. On peut...
Il y a la censure.
Oui, la censure bien pensante pour des très bonnes raisons, mais on la voit arriver quand même. En ce moment, c'est un peu terrible.
Oui, c'est ça, oui.
Enfin, il me semble.
Ah oui, et oui. Et alors, je me dis, qu'est-ce qu'il penserait de, quand on lit Baudelaire, la façon dont il parle des femmes, franchement.
Non, mais j'espère qu'on n'en est pas là, quand même.
On se demande, hein, parfois, c'est vrai. Hein. Et l'autre Ramon aussi. Enfin, bref. Bon, c'est-à-dire que l'écriture, c'est quand même ça dépend ce qu'on en fait. Hein. Ça dépend. Est-ce que tu as l'impression d'écrire pour. Tu n'écris pas pour une élite. Tu écris pour qui ? Pour toi ? Pour celui qui lira ? Pour celui qui aura envie de lire
Non, mais c'est sûr qu'on écrit aussi pour se soulager, en quelque sorte. Mais au bout d'un moment, on a envie de parler à quelqu'un. Enfin, évidemment. Je termine un roman où j'ai tout lissé. J'essaie vraiment de me faire comprendre, de mais ce sera un roman comme ça, donc
voilà. Oui, mais parce que en fin de compte, même on écrit, mais on a dans la tête les gens qui sont qu'on côtoie journellement, etc. Donc on n'est pas tout seul même dans sa tête, hein, de toute façon.
Enfin, la belle écriture, c'est quand t'as la pulsion et que t'y vas, quoi. Donc que tu te poses même pas la question, mais et après tu derrière tu bosses quoi.
Voilà.
D'accord. Mais l'essentiel c'est d'avoir la pulsion, je pense.
Bah ça demande une certaine énergie aussi écrire. Hein.
Oui, tout à fait. Hein. C'est physique quoi. Ouais.
C'est absolument. Physique aussi. Ouais, hein. C'est pour ça que il y a des textes, ils sont bien rendus quand on les dit sur scène.
Ouais.
Je pense. Là on peut exprimer ce côté physique de l'écriture.
Ouais.
Parce qu'on l'imagine pas, on s'imagine on écrit avec la main, c'est gestuel aussi, hein. Il y a la main quand même. Hein. Bon, d'accord, il y a l'ordinateur, ouais. Mais c'est bien aussi la main qui est manuscrit.
Faudrait y revenir.
Hein. Là, il faudrait y revenir. Ouais. Mais ceci dit, je pense que en écrivant, ça demande un certain effort parce que quelque part, il faut mettre en ordre ses pensées, ses sentiments et tout ça. Donc, c'est pas tout à fait naturel.
Non, et puis s'éloigner peut-être de la du fantasme de base, quoi. Et sinon, en trois lignes, c'est dit. Hein. C'est simple. Hein.
Ouais. En trois lignes, c'est dit. Alors, tu fais pas comme Nietzsche, tu te promènes pas dans la campagne, et puis c'est là que l'inspiration te vient.
Dans le temps, je faisais le tour de mon pâté de maison, en tout cas, mais.
Il y a pas mal, oui.
même plus.
Alors, on va écouter. Bon, ben la biographie. Alors, je me suis arrêtée en 1980, mais il y a eu beaucoup d'autres choses après. Donc, tu es reconnu.
Non, c'est le début 1980.
Oui, ben ouais. Voilà. Mais après, il y a eu beaucoup années. D'autres choses. Ouais. Et donc, tu as eu des rencontres importantes. Tu as eu la rencontre avec un auteur de science-fiction.
Jean-Pierre Andrevon. Ouais.
Voilà.
C'est un type formidable, vraiment. Ouais.
Ah oui.
qui m'a répondu, qui m'a dit, qui m'a critiqué mon écriture, que je connaissais pas, qui a voulu m'éditer dans les meilleurs textes inédits de Charlie. Il écrivait pour Charlie. Normalement, j'aurais dû intégrer la bande, et etc. Enfin, il a pas arrêté de m'aider jusqu'à un point où voilà quoi.
D'accord.
Ça suffit. Mais...
Et tu supportais les critiques?
Oui.
Oui.
Oui, enfin, ça dépend.
Là, Emmanuel Granger est une de mes... oui, je lui soumets.
Lectrice, avant que ce soit édité.
Je lui soumets beaucoup de manuscrits.
Ah oui.
Ah ben oui, c'est ça qui fait que...
C'est bien ça, c'est courageux. Enfin, c'est courageux.
Elle me met des notes, des commentaires. Ça. Ouais, il faut s'accrocher. Ouais.
Ah oui.
Donc, non, c'est vrai.
Oui, mais c'est parce qu'on se connaît bien.
Bien sûr, bien
c'est
sûr.
Des blagues, je ouais. dis quelquefois beauf.
Oui.
D'accord.
Alors il n'est pas content, c'est normal. Attends, moi, on mettrait ça, une paire de claques. Voilà. C'est normal, c'est à peu près normal.
Mais je le fais un peu exprès aussi. Je sais que tu le fais exprès.
Et puis tu as rencontré les musiciens, Mano Solo
Oui, avec Evelyne d'ailleurs.
Ouais. Oui, Mano Solo sur son forum.
Ouais.
Bah, c'était le fils de Cabu, il avait fait un journal sur le net, on croyait beaucoup à ces trucs-là. Et...
Oui, il est décédé, je crois.
Oui, il avait le sida, oui. Et, d'ailleurs il a été, enfin, oui, il est mort, il a une crise cardiaque il y a longtemps, ouais.
C'était le fils de Cabu,
ouais. Ouais, c'est le fils de Cabu et d'Isabelle qui avait créé La Gueule Ouverte, ouais. On se connaissait pas vraiment, il y avait un rapport... Enfin, lui, il était très connu, mais s'il y avait un rapport hérissé, c'était un mec hérissé, mais très généreux aussi. Ouais. Et donc, un jour, il m'a téléphoné, il m'a dit, est-ce que je peux te mettre ça sur mon site? Oui, d'accord, etc. Quoi. Voilà. Et sur son site, j'ai publié des textes, et ça donnait un livre sur Lovecraft, Destination Lovecraft. Voilà.
D'accord. Très beau livre.
Ouais, merci. Très beau livre.
Que j'ai lu sur scène. D'accord. Alors,
exact.
Là, qu'est-ce que vous allez nous lire? Un extrait de La Palpite?
Ouais.
Alors, est-ce que ça existe dans le dictionnaire, le mot La Palpite?
Non, j'ai appris, en fait, d'ailleurs, que c'était un mot de Céline, Louis-Ferdinand, Céline. Mais je ne savais pas, vraiment.
Donc, tu l'as inventé?
Ouais, je pensais
l'inventer. Céline l'a inventé, mais toi, tu peux très bien l'avoir inventé aussi.
Voilà. C'est-à-dire, c'était un autre... vraiment un autre... texte, quoi. Ça a été refait 100 fois, voilà. Donc,
La Palpite, moi j'aime bien. C'est pas très loin de La Pépite, La Palpite, ouais, c'est sympa. Donc c'est un poème narratif.
Oui.
Voilà.
On dira ça, ouais.
Oui, alors on va vous entendre, vous êtes trois hein, à dire le texte. Voilà. Et puis peut-être, alors, il y a ton disque là, on pourrait peut-être entendre, parce que mettre un peu de musique quand même.
Oui.
Il y a un extrait, Jeter l'éponge. Oui, on pourra peut-être écouter. Il ne dure pas trop longtemps.
Je sais pas.
3:40. Voilà. Eh bien, on vous écoute, monsieur, mesdames.
Bah, on a un peu mis ça au point, donc je commence. Ça me rappelle une dépendance, pour mieux dire une conséquence. Me détournant pour dupliquer, je coupe net mon ombre portée. Un saut de piste sans m'énerver. Sur ton pelage qui frémissait, je t'embrassais et c'est encore ce que je fais en gras de papier. Dénoyauté par la stupeur, je suis retombé dans le verger, un coup de langue dans le pollen. J'ai rassemblé mes pots de chagrin, j'avais raté l'éternité, un quart de poil à peine. Foutu ratiboisé, ployant sous le vent tiède, ce serait ça mon crime terrible. Toute la découpe dans l'escalier. Débouché sur ma poitrine, détache mes pièces de viande. Depuis, je plisse en marécage. Et tout pareil au nouveau-né, je me projette à fond de gosier. À part ceci, je suis pas né. Calme et tranquille, si loin des lèvres qui murmurent. J'ai du ballon un coup sans rien. J'ai du ballon un coup de girafe. J'ai du ballon un coup pour rien. Pendant toutes ces années, je me suis cru dans un jardin, la même pomme qui retombait. À la fin, la pomme était farcie de toutes mes dents. Un jour, je me suis retourné et j'ai vu la mer morte qui se détachait, les vagues mortes qui retombaient, les hommes morts qui s'avançaient. Je me suis levé.
Cotérise, oh mon amour, je t'aime tant. Oh mon chéri. Entendant ces douces paroles, j'ai balbutié au bord des lèvres. On était tous dans l'arrière-salle et ma petite gueule avait pointé. Le flic m'a tapé sur l'épaule. Il m'a tendu le téléphone. À l'autre bout, il y a ma mère. Maman, je sais comme elle a peur. Elle m'a larguée sur cette terre pour que j'interpose devant sa mort un corps d'angoisse et son calcul, je le trouve anachronique quand l'échéance déchire la clause. Vos histoires avec votre mère attendriront la presse et le jury, mais revenons à notre affaire. J'aime pas vous tabasser, j'ai les phalanges fragiles, un début de tendinite. Une tombola tennis me met face au champion top 10. Il jouera le jeu pour le sponsor, je voudrais quand même sauver la face car j'aime tellement le sport. Vous avez raison que je réponds. Ma mère a fait un bide, j'y suis pour rien, mais je regrette. Elle passait son temps à frotter le parquet. Parfois, elle s'échardait. Et derrière la digue, j'entendais son cœur. Je répliquais un petit vomi. Nous n'étions plus sûrs de rien. Sur le point de déboucher, la prudence me ressaisit. Il faudra rembobiner le fil salive qu'abreuve toutes ces paroles. Lisez entre les lignes. Moi, je ne signe pas. Pour ne pas laisser d'indice, j'aurais pu... Mais je puais déjà sueur, la crainte d'outrepasser les bordures liserées derrière lesquelles j'avais pointé. J'éteignais coiffé, j'acharnais à la bouture. Nous dormions tout le temps. En ce temps-là, c'est ce que nous faisions de mieux, de la meilleure des façons. De la meilleure des façons, on dormait. Même que je ramenais tes pensées intestines au milieu des primes verts. Ah, que c'était joli. Et pour le reste, on avait de la tenue. Manière de parler du renoncement à l'effilement prétentieux qui vous fait siffloter le roseau par-dessus les bébés plats. On la ramenait pas. On laissait tout sur place, on coupait court. Le long des flux baveux, les paroles des visages tardaient à se dégager. Certains refusaient de dégorger les phonèmes. Ils éclataient en larmes, des codicilles à ce qui ne se disait pas, que d'autres disaient, mais ça ne coïncidait pas. L'avant, l'arrière, la gueule merdeuse, le cul denté au milieu des crocodiles, l'avant, l'arrière, quiconque chier de l'alphabet révolté la nature des phrases, l'avant, l'arrière, quiconque s'abêtissait oubliait les motifs de sa douleur.
Au petit matin, j'attendais le moment où tu m'ouvrirais les yeux, un souffle léger. Je parle de celle que j'abritais, non pas dans un souvenir, mais dans la réalité. Et dans cette réalité, je crois que je t'ai abrité, même si tu prétendis le contraire, juste avant de déménager à la cloche de bois. Voilà, c'est ce qu'on avait prévu ensemble.
On continue ?
Oui.
Allez-y. Ah, je criais à mon tour, comme je criais à leurs oreilles. Voyez comme j'ai raison, regardez les grimaces, regardez les usages, regardez les cordages. Les coquillages s'ouvrent comme des fleurs et peu nous importe de savoir si nous sommes identifiés. Nous existons si peu que nous nous usons sans rien faire. Regardez nos visages, nous faisons haut de toutes parts. Nous rigolons au déversoir, c'est trop tard. Regardez mon visage. Étendus dans le noir, tous avaient fini par me voir. À voix basse, je leur ai dit que je ne pouvais remédier à leurs existences foireuses, d'autant que moi-même. Ils ont haussé les épaules. Ils portaient des joggings. J'ai soufflé devant moi. Une mouche lente a reculé. Je coule le reste du temps détaché de toute cause commune. Mon cerveau cogne d'un bord à l'autre de la boîte crânienne. Entre les parois qui se desserrent, je vois la bête malingre retomber dans les herbages. Ceux qui, d'un sursis, ne savaient que faire, feignent le sommeil à tout hasard. Un oiseau à crête rose ouvre la voie de l'alphabet qui se désosse. Un sifflement honteux des branches. Je vais vous achever, que je promets à des connaissances un peu fuyantes qui esquissent un sourire avant de se dissiper. Je suis au fond de l'océan, celui qui annonce sa prière. Nous sommes plusieurs à procéder de cette façon, une armée démunie de ses artifices, allongée sous les étraves, rêvant aux lumières, l'orchestre, les robes déplacées d'un pas superbe, les bas noirs, le pied cambré. Oh, j'aurais aimé. Mais la moindre paupière et les yeux s'écartent. Et les prunelles tombent, malgré les doigts qui les repoussent. C'est comme un geste qui refuse. Les mouches me font un bonnet, puis une cagoule. Ma tête s'est détachée du tronc commun des mal nommés. On a parlé d'un saut de lune, un trône qui vacille, des racines qui s'enfoncent. Une équipe de plongeurs nous recherche au milieu des amphores. La lueur se rapproche de l'ossuaire. Une sécrétion d'aragonite sédimente dans ma boîte crânienne. Une perle de sueur va-t-elle dénoncer ma gêne? Mais le plus souvent, je bulle dans mon studio de location, regardant une petite cuillère flotter depuis le coin cuisine jusqu'à... Je ferme la bouche, je ferme un œil. Je guette le bruit des gouttes devant une table recouverte d'une toile cirée. Je cherche une tétine, me rabats sur la télévision. Je gratte ma rétine. Des gens de mauvaise composition viennent cogner à ma porte. Ils enfoncent ma porte. Sans progresser, ils tombent les uns sur les autres. Ils sont nombreux.
Tes ennemis ont eu ta peau. Ils étaient partout. Personne ne t'a vu. Personne ne te voit. Mais tu as volé sous ton ampoule. Au-dessus de ta moquette, tu es retombée, toute bleue et toute tordue. C'est toi, ça n'est que toi qui te divise, juste tes lunettes sur le plancher. Rentrée des eaux, c'est bien fini. Tu es dans un sac avec fémur qui dépasse. Des vieux chiens s'en emparent. Des souvenirs se grignotent, se digèrent. Et se défèque. Par une matinée froide et pluvieuse, je suis allongée dans un cercueil de bas prix. Le corbillard roule lentement. Pas un chien, pas un copain ne le suit. Les mains croisées, les cheveux peignés, les embouchures obturées, j'entends les municipaux plaisanter. Peu après, ils me descendent dans un trou. Révolté par leur manière, je bondis, défonce le couvercle, escalade la paroi, m'accroche aux racines qui font saillie. J'affleure au niveau des préposés qui se pincent le nez, importunés par les mouches s'exhalant de mes boutonnières. À ceux qui ne se croient point morts, je leur suggère. Venez, sniffeurs de chrysanthèmes, venez pleurer sur ma carcasse.
et pour prix de votre effort, vous recevrez une gratification. Portefeuille glissé dans la poche intérieure de ma veste, vous pourrez vous servir. Il y a de nombreux billets et des entrées gratuites pour le musée de l'homme, à la galerie de l'évolution.
Ah oui, eh ben c'est bravo, hein.
Bravo,
bravo, bravo.
Merci. Hein.
C'est
merci beaucoup.
On va alors, Nicolas, tu as une petite musique ou peut-être une petite musique. J'allais dire
une gigue.
Oui, une gigue. Non, une musique. Comment dire, je ne sais pas.
Ben, du Carnoche.
Voilà.
J'ai sous-pesé le problème dans tous les sens. Assoupi, près d'un remblai, je groseillais entre les tempes. Au petit matin, j'ai trébuché contre une paupière. C'est là que je me suis réveillé. Un cri venait de m'arracher à mes ténèbres. Il y avait des yeux dans les placards. Il rallumait entre les tringles une entrave à ma part d'ombre. Un soleil de face exemptait le mystère des inconscients. Un coup de latte pour me dégager. Bientôt j'allais comprendre. Agrippant en pleine lumière un tronc percé de feuilles, un pauvre type se débattait, remontant la proie de sa propre chair jusqu'au faîte où il s'assit. Sur sa viande de puits, il prolifère. Une main glabre agite des doigts, va savoir ce qu'il a fait. J'ai senti une vague douleur, vu des entailles à mes poignets. Un projo braqué sur ma figure, un projo dans ma figure illuminait des petits cris. Une dalle dans mes entrailles et des mecs sandwich bretelles me baffaient à tour de bras. Ils me battaient depuis des heures, tandis que l'aube mouillée faisait retomber sur mon visage un crachin que c'est mauvais, n'essuyez pas. J'aurais voulu jeter l'éponge au fond de la mer, sans revenir dans mon sillage. Les gens veulent à tout prix savoir. Ils vous dévorent avec lenteur comme l'escargot sur la laitue. Puis ils vous digèrent, ne vous parlent plus. Ce morceau qu'on m'a fait recracher, je l'ai vu dériver à fond de silence. Un jour, il tombera au sol. Je pourrais me redresser, parler enfin d'autre chose. Entre les gouttes, un bout de crâne et puis l'épaule reconstituent l'idée vitale. Un cri s'élève, c'est un vieillard. Il lève la patte comme un vieux chien. Je vais en rire, on m'interrompt. Il pleuvait, du lait ou bien du rouge. Et leurs gifles obliques réinventaient mon corps. Du grenier jusqu'à la cave, je recollais toutes mes entailles. La nuit rompue, une sourdine bat la palpite à mes branchies. Je me retrouve nu sur la grève. À l'océan qui me berçait, je livre enfin le dernier mot. Un coup de gaule dans mon figuier, je me détache et m'indiffère.
Ben ça, c'est encore une autre voix qui dit du Carnoche. C'est quoi, ça?
Ah, c'est quoi, Rémi?
C'est qui? Un auteur, un poète qui s'appelle Patrick Dreux.
Eh ben, félicitations. Ouais. Ben, moi, je trouve que...
C'est très beau.
Alors, si jamais Patrick Dreux écoute Radio Libertaire, bravo, hein, une belle voix. Hein, très, très belle voix.
Je le salue et je lui enverrai le podcast, ouais, bien sûr.
Ouais. Parce qu'en fait, ce disque n'a pas été commercialisé, le disque là, ce qu'on entend là.
La musique, c'est de Phil Baron.
Oui.
En fait, c'est un compositeur assez renommé de variété, pour Zazie.
C'est le frère de Zazie ?
C'est le frère de Zazie et un compositeur, et aussi compositeur, quoi.
D'accord.
Existant par lui-même, quoi.
Voilà. Et ça date de quand, ça ? C'est récent ?
Le disque ?
Oui.
Maintenant, depuis, ça passe si vite, hein. Ça fait quoi ? Ouais. 5 ans, peut-être ?
5 ans ? Ah, d'accord.
Ouais, 5 ans.
Ouais. Mais ça n'a pas été véhiculé, communiqué
Non, ça n'a pas été, malheureusement, et ça, c'est de ma faute. Et Emmanuel dit une nouvelle entière, enfin, courte, hein, mais quand même, une nouvelle entière qui s'appelle Charlie.
Oui.
Et avec une très belle musique, une très belle interprétation. Tout ça, c'est un gâchis énorme, quoi, vraiment. Ouais.
D'accord. J'imagine qu'il faut un petit peu de moyens financiers, non, pour commercialiser, enfin commercialiser, éditer,
distribuer.
Faudrait peut-être le faire, quoi. Voilà.
C'est-à-dire que soit tu passes par des circuits commerciaux, soit par des circuits parallèles, un petit peu.
Auto-édition, c'est possible.
J'ai pensé au tout petit label,
Il y a des librairies comme Publico qui tiennent à disposition les CD qui sont un peu plus marginaux, quoi.
Peut-être
trouver d'autres circuits.
Peut-être je pourrais réessayer le. Parce que c'est vrai que c'est un vrai gâchis, ce truc-là. Franchement.
Ouais. Mais l'enregistrement est bon aussi, ça a été enregistré dans un studio, j'imagine.
Oui, parce que Phil Baron était avait un home studio et a très bien fait le truc, quoi. Il l'a masterisé, il l'a fait selon les normes professionnelles. Ouais.
Ah oui. Non, c'est bien.
Enfin, c'est pas non plus hyper. Enfin, mais quand même, c'est vachement. C'est pas loin des normes. Je pense que c'est dans les normes professionnelles.
Il faudrait essayer de le communiquer un peu davantage.
Il y a aussi Patrick Ox dedans mais c'est autre chose. Il chante. C'est un texte à la limite de la chanson. Patrick Ox, rue de la Muette.
Oui.
Qui est un très bon ami à moi.
Ah, d'accord. Voilà. Il fait combien de minutes, rue de la Muette?
C'est autre chose, hein. C'est tout à fait autre chose.
D'accord.
C'est quel morceau que Patrick interprète?
Comment?
C'est quel morceau que Patrick interprète?
J'ai un truc de mémoire.
Rue la Muette.
La petite ceinture.
La petite ceinture.
Ouais. Oh, c'est marrant, c'est celui que j'avais prévu.
C'est une chanson.
Pour toi et moi.
Ah oui, parce que dans la palpite, il y a des textes qu'on entend dans le disque.
Ouais, la plupart c'est la palpite, oui. Mais la petite ceinture, c'est autre chose. Mmh. Et à la fin, il y a un truc où que j'avais enregistré chez Phil Baron. À un moment, j'allais chez lui, j'enregistrais. En plus, c'était électrique notre relation, alors ça donnait quelque chose de bien, quoi.
Vous passiez de l'électrique à l'électronique.
Oui.
Mais la petite ceinture, c'est toi qui as écrit les paroles.
Oui.
Voilà.
Il faut le dire. Oui, et Patrick Ox qui a fait les plus ou moins avec Phil Baron. Toutes les musiques sont de Phil Baron, mais là, un peu de Patrick Ox sur le refrain.
Ah, d'accord. Voilà. D'accord.
Et puis, on entend que c'est un chanteur.
Oui, tout à fait. Oui. Presque. Est-ce que tu aurais pu imaginer
C'est un chanteur et un conteur. D'ailleurs, il est en train de faire un projet. Je ne suis peut-être pas chargé de divulguer.
Parfois, les maisons d'édition, ils éditent à la fois le livre et le disque en même temps.
Ouais.
Ça fait disque-livre. C'est pas mal comme idée.
Ouais, c'est ce qu'il faudrait faire. Ouais.
Ouais. La Fabrique de la Nuit, j'aime bien le nom de cette maison d'édition.
Ouais.
C'est un auteur. C'est un éditeur qui édite beaucoup de la poésie.
C'était H.O.
C'était H.O.
Et puis je m'étais un tout petit peu associé avec lui. J'ai un tout petit peu essayé aussi de me mettre là-dedans, mais là aussi j'ai pas réussi. Mais ouais.
D'accord. Et donc, parce qu'on dit que la poésie ça se vend pas, mais bon.
Il y a une autre. Je ne sais pas comment on dit, autrice, qui s'appelle Chloé Halifax, qui a été éditée dans cette...
Oui.
Qui a vraiment beaucoup de talent. Ne tuez pas Oriane, ça s'appelle son roman, où elle se jette dans un jeu vidéo entre... elle est vendeuse dans un supermarché et la nuit c'est une guerrière quoi, dans un jeu vidéo, et vraiment c'est avec de la poésie, c'est très beau. Oui. Et ça, j'ai
d'accord,
c'est aussi dans La Fabrique de la nuit.
D'accord.
Ouais. Et il y a aussi que Alain, donc Aden Elias, 33 fois quelque chose. Ouais. Voilà.
Ah oui, donc c'est une maison d'édition à découvrir.
Ouais Bah oui. Mais c'est un peu comme... Oui.
Est-ce que tu penses un jour que tu vas passer à la grande librairie ?
Avec le bouquin que je suis en train de finir ? Oui, je pense. Ouais.
Ah oui ?
Oui.
Non, parce que j'ai vu quand même dans la bibliographie, sur Internet, que tu as eu quand même beaucoup d'articles aux yeux quand même.
À un moment, ouais, ça marchait. Ouais. Enfin, exagérant pas, mais ouais, un peu, ouais.
Ouais, mais bon, ça reste un petit peu confidentiel.
Ouais,
c'est ça. Et est-ce que c'est voulu ou est-ce que c'est...
Non, soyons francs, c'est pas voulu. Non.
Ah non, c'est pas voulu.
Non, c'est pas voulu.
C'est pas voulu.
Surtout, ne me vendez pas.
Non, mais il y a des personnes qui disent ça.
Non, mais il y a
des
gens qui...
De nos misères faisons une gloire. Hein. Bon,
bon, ben, moi, j'ai pas lu tous tes livres, hein. Je l'avoue humblement. Mais j'ai lu cela, mais comment dire, sur l'instant, moi j'ai surtout en écoutant le disque, ça m'a rappelé beaucoup de L'Autre et Amont, hein, et puis Rimbaud aussi. Rimbaud aussi, ouais. Et bon, il doit y avoir d'autres.
Mais L'Autre et Amont, certainement,
oui. Ah oui, et L'Autre et Amont, quelque part, ça me fait plaisir de rencontrer un auteur qui se met un petit peu sur le rivage, les rives de...
Et L'Autre et Amont ne savait jamais si c'était ironique ou lyrique, c'est ça.
Oui.
Hein, c'est comme ça que je vois la chose.
Oui,
en tout cas.
Oui, mais en même temps, comment dire... Il y a une violence qui est très juvénile. Enfin, je veux dire, on a l'impression que c'est quelqu'un qui mord dans un fruit.
Et oui, mais c'est un texte qui vient d'un texte de jeunesse, quoi, mais recouvert peu à peu par...
Hein, on le voit mort dans le fruit. Enfin, et puis le jus de la pomme qui dégouline, mais il y a ça. Donc, c'est à la fois assez noir. Enfin, il y a quand même des... C'est violent. Mais en même temps, on sent la jeunesse, quoi. On sent et c'est comment dire, il y a de la force, quoi, il y a de l'énergie là-dedans, et là la façon dont les images, enfin, que tu trouves, quoi, je trouve, et j'imagine que c'est pas des images pensées, ça vient comme ça, hein.
Oui, enfin, oui, ça vient.
Enfin, je crois. Hein,
oui, ça vient par une dérive mentale, quoi. Oui,
c'est une dérive. Ouais. Alors là.
Ouais. Comment ça?
Enfin, dérive, enfin, si on. Ouais. Enfin, c'est un chemin. C'est un chemin.
Ouais,
on va pas dire dérive quand même. C'est un chemin.
Ouais.
J'allais pas dire parmi d'autres, mais c'est un chemin qu'offre le langage.
Non, et puis ça raconte une vie un peu.
Oui,
un
ça
peu.
Raconte une vie
et
aussi.
Puis, dérive et dérive.
Dérive, oui.
Ah,
oui, tout à fait.
Ouais.
Bon. Ça va du fœtus au cadavre, quand même, ce truc.
Ouais. Oui.
Ouais, parce que la première partie, c'est fœtus. Ouais.
Alors, moi, je ne vais pas me référer à... on a chacun sa propre perception. Mais quelque part, quand j'écoute ça, je préfère pas penser. J'aime bien me laisser... Il y a quand même beaucoup de rêves. On peut très bien... c'est comme si on se laissait porter, justement, sur un fleuve. Par exemple, on dit, bon, je me mets dans une barque... Et je dis à la barque, va où tu
veux. Le bateau, puisqu'on parlait de Rimbaud. Ouais.
Et puis je m'endors.
Mm-hmm.
Et puis c'est là que il y a des images qui viennent à ma rencontre. Il y a un peu de ça.
Bah c'est un peu l'ambition, c'est d'échapper au sens et forcément y revenir. Ouais, mais ouais.
Bah d'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que dans ton écriture, parce que tu maîtrises quand même ce genre de... tu retombes sur tes pieds, malgré tout.
C'est bossé, ouais. C'est,
parce que sinon, si on ne retombe pas sur ses pieds, on ne peut plus écrire après. C'est dommage.
Ouais, mais c'est de la poésie sans...
C'est-à-dire,
sans pied, en fait. Ouais.
Le bateau, il coule, mais quand même, tu as un œil dessus.
Ouais.
Il ne va pas... Il se dirige vers...
Oui, oui, puis il y a des correspondances de paragraphe en paragraphe.
Voilà, exactement. Voilà. Bon, alors, on va écouter La Petite Ceinture.
Donc ça, c'est la chanson poème et la chanson, ouais.
D'accord.
Très...
Je me souviens, La Petite Ceinture, quelque chose comme ça. La petite ceinture, fallait la voir voler au loin. La petite ceinture, quand elle fonçait, fallait se la faire, on en rêvait. La petite ceinture, y avait, je me rappelle dans ma ville de métal, une drôle de sauterelle, une drôle de petite diablesse. Il y avait, je me rappelle, dans ma ville natale, une drôle de petite peste, une sacrée petite drôlesse. Il y avait, je me rappelle, ses fesses d'opale sous sa petite jupe de cuir noir. Et c'est pour ça qu'on l'appelait La Petite Ceinture. Fallait la voir voler au loin, La Petite Ceinture, quand elle fonçait, fallait se la faire. On en rêvait, La Petite Ceinture. Il y avait, je me rappelle, à la tête de notre bande, cette diablesse qui jamais n'abandonnait sa part de butin. Oh putain, comme elle était duraille, je m'en souviens. Il y avait, je me rappelle, dans ses yeux rieurs, dans ses yeux ailleurs, le chagrin capital. Petite ceinture, fallait la voir quand elle tournait. Fallait se la faire, on en rêvait. La petite ceinture, fallait se la faire, on en rêvait. La petite ceinture. Il y avait, je me rappelle, autour de la petite ceinture, accrochés comme des wagons, tous ces affamés qui faisaient ceinture pour ses beaux yeux. Filaient tout doux à travers cave, à travers zone, les flics aux trousses dans Paris-Brousse. La petite ceinture battait le pavé, roulait l'enfer, fallait se la faire. On en rêvait. Quand elle fonçait, fallait se la faire. On en rêvait. La petite ceinture. Il y avait, je me rappelle, tous ces immeubles qu'on traversait, le beau linge à la fenêtre séchait ses larmes. On laissait pas que des bons souvenirs. La petite ceinture voulait un bel été loin de Paris. Fallait le payer. On l'a payé. 5 ans à Londres. La petite ceinture, je me rappelle, quand on est sorti de Fresnes, on trouvait plus l'accélérateur. Je me rappelle nos gueules couturées. Le bleu cafard travaillait dans l'entre-ciel. On a sonné à l'entresol. Un jeune mec nous a dit qu'elle n'avait pas laissé d'adresse. Je me rappelle, on tournait en rond, périphérique et ses bretelles, nous ramenait vers Paris sur zone. On avait tout perdu, la petite ceinture. La petite ceinture, fallait la voir voler au loin. La petite ceinture, quand elle fonçait, fallait se la faire, on en rêvait. La petite ceinture. Je te cherche partout, la petite ceinture, où que t'es passé, la petite ceinture, je te cherche partout.
Putain de Dieu, mais il te l'a sublimé ton texte là, Patrick Hawkes. Je sais pas, Rémi, quand t'as écrit ça, quand t'as foutu ça sur le papier, tu voyais ce qu'il allait en faire ?
Oh non, non, c'est un texte ancien, ça. C'était, c'était du temps où j'allais chez Phil Baron à Millau. Non, non, bah, tu connais Patrick Cox, hein, il sait faire vivre les textes. Hein. Ouais.
Bah oui, hein. Puis des diseuses aussi, ça
bah, ouais.
faire vivre les textes. Ouais. Eh ouais. Ah oui, ça donne
très très beau.
Ah oui, oui.
Et plus on les dit, plus on les. Enfin, c'est un peu idiot ce que je vais dire. Pourtant, c'est rare que je dise des choses idiotes. Mais quand même. non, je veux dire, plus on les a en bouche, j'ai expérimenté parce que c'est quand même la deuxième fois que je lis à voix haute la palpite. Et je trouve qu'il y a le sens qui arrive. Mais je veux dire, le sens dans le sens charnel, quoi. Ça prend chair, ça prend. Voilà, il y a plus simplement que les mots, il y a la chair qui arrive. Plus on va les dire, plus à voix haute.
Oui, oui, d'accord.
Tu comprends ou c'est.
Oui, oui, tout à fait. Oui, oui. Mais juste une question, est-ce que ça t'arrive de les dire à voix haute, tes textes?
Oui. Oui, pendant un temps, ça m'a même pris beaucoup. Enfin, oui, oui. Oui.
Ah oui, c'est ça.
Mais jamais sur scène. J'ai jamais eu l'audace.
Seul dans ta chambre. Enfin, je
enregistré.
Enregistré aussi.
Chez Phil Baron.
Chez Phil Baron.
Ouais. Donc, il me mettait derrière un micro et ça y allait, quoi. Non, j'adorais ça en plus.
Ouais.
J'ai un peu perdu le truc. Quoi. Mais, non. À la fin, ouais.
À la fin, tu
à la fin du disque, il y en a un, ouais.
Oui.
Qui est beaucoup trop long pour le passer, mais il y en a un, quoi. Ouais.
D'accord. Ouais. Non, mais ça ne m'étonne pas parce que, comment dire. Ça dépend des textes. Alors, par exemple, les nouvelles là, parce
Non, ça se prête pas.
Ouais. Ça s'y prête pas. Peut-être des courtes, peut-être. Parce qu'il y en a certaines, c'est des monologues. Hein.
Ben, Emmanuel, elle a réussi à en dire une nouvelle. Charlie.
C'est ma fête aujourd'hui. J'ai bien fait de venir. Hein.
Ouais. Non, mais Emmanuel, des fois, c'est électrique aussi, mais on est des vrais amis, quoi.
Oui. Est-ce que vous voudriez faire un trois en scène, et puis vous allez faire une petite fête de poésie avec des textes de Rémi, et puis il manquera plus qu'un musicien, une metteur en scène comme Fabienne Delcoubi.
Une chanteuse.
Chanteuse, mais elle est metteur en scène aussi.
Ah, voilà. Mais oui.
Alors, tu me disais que tu avais envie de parler de tes nouvelles aussi.
Ouais.
Un petit peu.
Ouais, le temps passe là peut-être, mais ouais.
Bah allons-y, après on passera à l'enfer de Henri Barbusse. Et pour faire la pause, l'entracte, ce sera un poème de Jean-Marie Blanche.
Parfait.
Un poème, un texte de Verlaine par Jean-Marie Blanche. Donc.
Il faut que j'en parle comme ça.
Oui, allez, vas-y, jette-toi à l'eau. Enfin, non, c'est pas gentil.
Je peux essayer, mais.
J'en ai lu.
Non, mais le but, c'était de sauver. J'en ai plein des nouvelles, c'était d'en sauver.
Ah, tu voulais en sauver quelques-unes.
Et c'est le choix de l'éditeur.
Ah, c'est le choix d'éditeur.
Philippe Barrault.
D'accord.
Qui a choisi les plus calmes, les plus soft, les plus.
Ah, d'accord.
Oui, voilà. C'est son choix.
D'accord. Moi, je préfère les plus courtes.
Ouais.
Il y en a une qui est longue. Alors. Il y a un chroniqueur, qui semble avoir bien analysé un petit peu le contenu du livre. Alors, il faut dire son titre. C'est « Derrière la vitre, rien ne passe ». Alors, en fait, c'est une nouvelle à suspense, parce qu'on ne sait pas qui parle. Et à la fin, on sait qui c'est. Mais au début, on ne sait pas qui parle. « Derrière la vitre, rien ne passe ». On ne sait pas qui c'est.
Il y en a deux, il y a Derrière la vitre et Rien ne passe. Ouais.
Ah oui, d'accord. Ouais. Enfin, Derrière la vitre, notamment.
Je
l'ai bien aimé, c'est là parce qu'il y a du suspense et je me demandais qui c'est. Et j'ai la réponse à la fin. Et c'est une réponse qui me fait peur un peu, mais il y a du suspense quand même. Et puis, pas mal d'ironie aussi. Et plusieurs styles, hein.
Oui.
Ils sont pas tous du même style.
Ouais, absolument.
Tu te mets dans la peau de certains personnages et y en a une, je dirais, un peu fêlée quand même. Enfin, je sais pas.
Tu parles peut-être de Rien ne passe.
La sœur.
Ouais, c'est ma sœur. Ouais.
On se dit, elle est un petit peu fêlée. Enfin, légèrement.
Fêlée.
Ouais. Rien ne passe.
Ouais.
Rien ne passe. Bon.
Il y a le fameux mot de Leonard Cohen, là, à travers les fillures. Non, mais je ne me rappelle plus de la citation.
Voilà. Il y en a plusieurs. Sémiologie active d'une petite culotte, c'est marrant. C'est marrant. C'est histoire de.
C'est un exercice de style. Ouais.
Ah, c'est un exercice de style. Voilà.
Ouais.
Il me semble que dans toutes ces nouvelles, il y a un petit peu d'exercice
ouais,
de style.
Ouais.
Parce que les styles diffèrent.
Ouais, il y a du gothique anglais aussi.
Oui, ouais. Et puis il y en a aussi qui est très classique. Ouais. Comme celle. Les histoires de l'explorateur, là, c'est voilà, un style c'est très, très, très classique.
Oui, ouais. Oui, c'est le style gothique anglais, ouais.
Voilà, très classique, ouais, ouais. C'est assez drôle aussi. Et puis, bon, sémiologie active d'une petite culotte, c'est marrant.
Ça a été publié dans Chronique du Saïla de Philippe Barrault, là, justement. Ah, il a une revue qui...
C'est très ironique, hein, sémiologie active, une petite couleur. Il y en a plusieurs comme ça.
Ouais,
hein.
Ouais, enfin, je peux le raconter, mais ouais. Ouais.
Ouais. Ah ouais. Donc, ça, c'est un melting pot.
Oui, je sauve quelques nouvelles parce que j'en ai vraiment, il y en avait beaucoup, beaucoup. Oui, c'est un peu de bric et de broc, mais je sauve plein de nouvelles, quoi.
D'accord.
Enfin, plein. Bon, non, c'est un petit livre, mais.
D'accord. Voilà. On peut très bien aimer ses propres textes. Laquelle tu apprécies le plus?
Je sais pas.
Laquelle
trop.
Tu recommanderais à je sais pas, à Pierre, Paul et Jacques
alors là,
ou Jacqueline.
Jacqueline, oui. Il faut que je réfléchisse quand même. Peut-être celle qui met le plus au cœur, c'est Rien ne passe, mais sinon. Non, je ne saurais pas dire, en fait.
Toutes.
Pas forcément.
moi, je pense qu'un auteur, un écrivain, il écrit comme il aurait envie de trouver... il se dit, bon, j'écris comme ça parce que je n'ai pas trouvé non plus dans les librairies un style qui me convient. Alors, après tout, je vais essayer d'écrire quelque chose qui me plaise, quoi. C'est vrai. En tant qu'auteur, on a envie aussi d'écrire quelque chose qui plaise à soi aussi. Ça peut plaire aux autres, mais...
Oui, on peut aussi...
C'est pas du narcissisme, hein, c'est
non,
simplement...
Non, on peut avoir envie d'écrire des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
Ouais.
Qu'on n'a pas trouvé.
Oui.
Dans d'autres écrits.
Mais c'est plus vrai avec de porter.
Ah, c'est plus vrai avec celui-là.
Oui.
Ouais, d'accord.
Avec la palpite.
Ouais, parce que il me semble que tu te lâches davantage dans la palpite. Là, c'est plus, comment dire...
Là, j'essaie de
là, tu serres les boulons. Hein.
Oui, voilà, voilà. J'essaie de faire vraiment des bons textes.
Voilà, c'est ça.
Voilà.
Mais là aussi, c'est des bons textes. Ouais. Hein. Mais enfin, je sais, il me semble que dans le genre la palpite, la poème narratif, tu te lâches davantage.
Oui.
Voilà. Enfin,
oui,
il me semble.
Oui, oui, absolument, absolument. J'ai envie de déborder. Oui. Voilà. Ouais. Voilà. Non, je sais pas, pour la main préférée, je ne sais pas quoi répondre. Je me suis mis dans la peau de personnage. Ce que je préfère, c'est quand je m'échappe, quoi. J'échappe à
tu te quittes pour aller chez d'autres personnes.
Voilà.
Tu changes de corps. Enfin, tu changes de corps, d'esprit. Enfin, tu essaies de mettre un autre habit.
Non, mais je crois que quiconque écrit, il est vraiment... émerveillé quand il tombe sur un texte où il ne reconnaît pas que c'est lui qui l'a écrit. Je crois que ça, c'est là, on est content de soi, quoi.
Oui.
Ouais, hein. Donc, c'est ça, quoi. Mm. Là, je me reconnais, en fait. Mais, bon. Ouais. Mais voilà.
Bon, alors, on va dire quand même où on le trouve, hein.
Oh ben on le trouve dans toutes les librairies, à dire vrai. Ça, c'est pas comme le disque, hein. C'est trouvable. Hein.
Ah, c'est trouvable.
Il suffit de le commander. Hein. Soit chez l'éditeur, soit on en dans une librairie, il mettra du temps à le trouver, mais je pense qu'il le trouvera.
Poème narratif La Palpite, de Rémi Carnoche, aux éditions La Fabrique de la Nuit.
Et les nouvelles, vaut mieux le commander chez l'éditeur PHB Édition. Mais on le trouve aussi sur le site de la FNAC, sur certains
sites. Oui, il suffit de taper le titre. Voilà.
Derrière la vitre,
derrière
rien
la vitre,
ne passe.
Rien ne passe.
Oui, exactement.
Et puis,
dans les librairies, c'est...
Il y a beaucoup d'autres livres que tu as écrits aussi, qui sont toujours...
Le cerveau de la famille, on le trouve. Oui.
On le trouve.
On les trouve tous, hein, à peu près. Bon, je pense que ça met 15 jours, 3 semaines à arriver, si quelqu'un le commande, mais ça arrive.
D'accord. D'accord. Et là, tu es en train d'écrire un autre. Ça y est.
Oui. Ça s'appelle Sylvain la nuit.
Sylvain la nuit.
Hein?
Il est fini.
Ben, ouais, j'arrive pas trop à dire qu'il est fini, mais ouais, ouais.
Il est pas, ouais. Il est pas loin d'être fini.
Il est si, pas si, loin d'être fini.
Oh, attends, il est fini depuis très longtemps.
C'est comme un livre.
C'est-à-dire qu'il n'a pas de timbre pour poster.
Mais un livre, c'est un peu comme un tableau, quelque part. On est en train de.
Oui, oui, c'est ça.
On le visionne dans sa tête, dans sa tête, oui. Et. On trouve toujours quelque chose à ou faire une rajouter une petite une larme de couleur ou ceci ou cela c'est,
ouais.
c'est parfois ça j'imagine c'est comme les personnages dans une pièce de Pirandello parfois les personnages du roman ils viennent t'embêter pendant la nuit et te dire mais pourquoi tu me fais dire ça non il y a pas un peu de ça.
Oui, et puis des fois, on met du temps à trouver le sujet, le vrai sujet, quoi.
Ouais.
Mais c'est surtout, apparemment, sur ce petit échange entre vous deux, c'est à quel moment on se dit, voilà, c'est fini.
Ouais, et ça, j'ai du mal.
Voilà. Mais parce qu'on peut toujours avoir envie de laisser reposer la patte pour que le roman vous glisse encore des choses, soit pour le réduire, soit pour trouver encore un truc encore plus juste à certains endroits.
Ouais.
Oui, et puis
précis.
Ouais. Et puis une fois que c'est emballé, une fois que c'est édité, c'est comme une femme qui vient d'accoucher d'un enfant.
Voilà. Voilà, ça t'échappe.
On ressent un peu le vide. Voilà. Et oui, on porte pendant 9 mois un enfant et puis tout à coup on a le ventre vide.
c'est la même chose
pour l'écrivain.
Voilà, puis tu règnes plus sur ton territoire.
Oui, ouais. Ça, je crois que les sensations sont.
Oui, elles sont un peu différentes.
Oui, non, c'est peut-être différent, mais enfin, je veux dire, c'est juste une analogie, mais évidemment, c'est pas comparé. Mais il y a ça quand même, il y a le vide. On a écrit quelque chose.
Oui, le postpartum, quoi.
Ben, on est obligé. À un moment donné, il faut bien s'en séparer parce qu'on peut pas rester fixé
à.
Il faut passer à autre chose, sinon on s'arrête, quoi.
Il faut accepter que le livre vive de sa propre vie.
Voilà, exactement.
Non, mais là aussi, la peur de l'échec, ouais.
Bon. Alors, on va écouter un peu de Verlaine, hein.
Ouais.
De Verlaine, j'ai choisi un épilogue, l'épilogue de son livre « Poème saturnien ». Donc, c'en est fait, ce livre est clos. Chères idées qui rayez mon ciel gris de vos ailes de feu, dont le vent caressait mes tempes obsédées. Vous pouvez revoler vers l'infini bleu. Et toi, vers qui tintait? Et toi, rime sonore? Et vous, rythme chanteur? Et vous, délicieux souvenir? Et vous, rêve, et vous encore, image qu'évoquaient mes désirs anxieux, il faut nous séparer. Jusqu'au jour plus propice où nous réunira l'art, notre maître, adieu, adieu doux compagnon, adieu charmant complice. Vous pouvez reveler de vers l'infini bleu. Aussi bien, nous avons fourni notre carrière et le jeune étalon de notre bon plaisir, tout affolé qu'il est de sa course première, a besoin d'un jeu d'ombre et de quelques loisirs. Car, toujours, nous l'avons fixé, ô poésie, notre astre unique et notre unique passion, t'ayant seul pour guide et compagne choisie, mère, et nous méfiant de l'inspiration. Merci.
Merci. Et ben voilà, vous avez eu droit à une leçon de Verlaine. Alors, on va quand même donner la parole à Fabienne et Jacques pour L'Enfer.
Avec plaisir.
Tu l'as lu, toi, L'Enfer de...
Non.
Ah ouais, et ben...
Sincèrement, je ne connais pas Henri Barthes.
Sincèrement, même beaucoup de gens ne connaissent pas.
Ouais, c'est un roman qui est paru en 1908. Et qui est un gros succès critique déjà, qui a fait connaître Barbus.
Il avait 35 ans à peu près, ouais. Non, voilà.
Alors, pour sa naissance, je sais que là, il aurait eu 150 ans, donc en fait, que je ne dise pas de bêtises, il est né en 1873, donc il avait 35 ans. Oui,
voilà. Effectivement. Non, parce que en fait, la date, c'est important, 1908, parce que je me posais la question, il était connu surtout pour Le Feu. Il
a écrit, alors ça, c'est après.
C'est après.
Voilà.
Et dans ce texte, c'est un jeune homme qui parle. Le narrateur est un jeune homme. Hein.
Oui. On ne sait pas quel âge il a. Je crois qu'il est entre deux âges. C'est un revirement, c'est une transformation. Donc, il pourrait tout aussi bien avoir l'âge de l'auteur, d'ailleurs, 35 ans.
Oui, c'est ça. Mais on sent qu'il est jeune, quand même.
Voilà. Il a une certaine jeunesse. En tout cas, il ne se vit pas comme quelqu'un d'immature et jeune au départ. Il est plutôt falot, assez sûr de lui, assez orgueilleux. Et en fait...
Il est dépressif, quand même, il me semble. Hein. Peut-être j'ai senti ça, mais enfin, peut-être que je me trompe.
Oui, hein. Peut-être.
Légèrement, quand même. Hein.
Oui, oui.
Si. Il a le cafard. Au début.
Oui, il a le cafard parce qu'il se retrouve seul dans une chambre, donc il est visité par des choses qui le surprennent. Mais au départ, il pense qu'il a une situation dans une banque à Paris, il vient de province, donc il a un côté très un peu orgueilleux. Et finalement, en découvrant un trou dans la cloison et en observant plusieurs sexualités, l'intimité des gens, la mort, la naissance, eh bien, il grandit en humanité et se transforme complètement.
Voilà. Et moi, je trouve que ce personnage, il manifeste énormément d'empathie. C'est-à-dire qu'il aime les gens qu'il voit. C'est pas du voyeurisme. En fait, en les regardant, il éprouve de l'intérêt, de la curiosité.
Oui,
il se prend à aimer ces gens-là.
Tout à fait.
Et alors, je me disais, mais après, il a écrit ça en 1908, mais quand il a découvert l'horreur de la guerre, est-ce qu'il pouvait avoir la même empathie? Enfin, je veux dire, c'est...
Paradoxalement, oui, puisque oui. C'était un grand pacifiste.
Oui.
Donc, un humaniste. Le livre est très humaniste, le spectacle aussi. Et Le Feu, c'est quelque part, en racontant la guerre, il raconte surtout l'horreur de la guerre. Enfin, la nécessité de l'éviter le plus possible. Et il avait d'ailleurs monté avec Romain Rolland l'association Amsterdam Pleyel, qui était donc pacifiste. Qui
je ne sais pas, Camus, il y a...
Camus, tout à fait, aussi, il les a rejoints. Donc c'est il a vraiment tout un itinéraire. Bon, il s'est un petit peu fourvoyé avec son communisme. Il avait pas mal d'illusions encore, puisque il est mort avant.
Seul, hein.
Voilà, avant certaines choses. Il y en a qui sont sortis de l'illusion en 41, d'autres qui sont sortis de l'illusion en 56. Mais en tout cas, beaucoup de gens se sont fourvoyés dans cette impression que c'était une utopie qui allait emmener vers des lendemains qui chantent. Et donc...
Mais il est mort dans les années 30, en fait. Il n'a pas eu le temps de voir...
Voilà.
Il avait déjà vu la montée du fascisme, mais je veux dire, il n'a pas connu la Seconde Guerre mondiale.
Non, non. Il est mort en 35 à Moscou, justement.
À Moscou.
Il était en voyage là-bas, parce qu'il y allait régulièrement. Et donc, c'est un poète, il a écrit beaucoup de poésie. Et Le Feu a une importance assez importante, hein, parce que c'est un livre sur la guerre de 14, écrit pendant la guerre, en 1916, d'abord sous forme de feuilleton, puis édité, et ayant eu très vite le prix Goncourt. Donc en fait, son livre a contribué à l'arrêt de la guerre, c'est-à-dire vraiment d'un seul coup. Donc c'est important.
Il a dénoncé
quand la littérature a un tel écho sur le réel. C'est très intéressant parce qu'en fait, d'un seul coup, on découvrait une réalité, une boucherie, un enlisement dans la boue, et sans forcément renvoyer la faute à l'ennemi. Parce qu'en fait, des deux côtés, on vivait le même enlisement. et les voilà. Donc, puis ce qui est très intéressant dans les, dans l'écriture du feu, c'est aussi la présence de tous les particularismes de langage. Il y a tous les accents de la France, tous les petits gens qui sont ses amis.
D'accord.
Donc en fait, je trouve qu'il y a, c'est pas pour rien que le peuple de Paris lui a fait des obsèques. Incroyable, quoi.
D'accord.
On n'imagine pas qu'il a eu des obsèques comme Victor Hugo, comme.
D'accord. Okay. Mais bon, là, on va parler de l'enfer.
Voilà.
Et donc, je pense que c'est un thèse que tu as connu et que tu avais envie depuis longtemps.
Oui, j'avais envie de l'adapter depuis longtemps. Au début, je n'avais pas du tout pensé que je l'adapterais sous forme de monologue. Et puis, quand j'ai eu envie de jouer seul en scène pour la première fois, parce que pour moi, souvent, le théâtre, enfin, la plupart du temps, c'est le travail d'équipe. Mais finalement, j'ai adoré le fait d'être seul en scène. Je trouve que, après une certaine pratique, c'est intéressant d'avoir cet itinéraire de solitude sur un plateau et d'essayer de servir une écriture, de vivre plusieurs personnages et de transmettre aussi des phrases importantes qui peuvent accompagner les gens qui sont là. Je me dis que s'il y a quelqu'un qui prend déjà une phrase qui l'accompagne un certain temps, c'est
vraiment
plein de phrases très profondes, magnifiques. Voilà, en tout cas, j'ai de très très bons retours des gens qui viennent, donc c'est plutôt sympathique.
Bah oui, oui, oui. c'est important.
C'est un peu immodeste, mais bon. En tout cas, je fais ça pour ça. Je fais pour servir une écriture, parce que finalement, il est un peu tombé dans l'oubli, Barbus. Hein. On connaît son nom.
Les rues Henri
voilà,
Barbus.
On le connaît par rapport à ses rues, par rapport au collège, par rapport à.
Pendant des années, je suis passée devant une rue Henri Barbus, et chaque fois, je me disais, mais qui c'est ce bonhomme? Évidemment, je me pose la question et le mystère, j'aimais bien le mystère, j'aimais bien le son du nom, mais je n'étais pas allée plus loin.
Bien sûr.
J'étais pas allée plus loin.
Il y a un certain nombre de littérateurs qui sont tombés dans l'oubli à toutes les époques. Hein, même Romain Rolland, qui lit Romain Rolland aujourd'hui, alors que c'est...
Ben c'est ça, il faut prendre le temps de lire quand même un peu. Hein.
Romain Rolland, je veux dire, c'est quand même L'âme enchantée, c'est quand même assez extraordinaire. Hein.
Est-ce que tu vas nous faire un petit extrait?
Oui, je veux bien. Hein? Donc là, je vais choisir un moment un petit peu de réflexion pour le personnage. La dernière fois, j'avais pris un passage qui était celle de la découverte du trou dans la cloison. Et là, c'est un autre passage. Allez, j'y vais. Je regarde les souvenirs captivés depuis que je suis ici, si nombreux que je suis devenu pour moi-même un étranger. Toutes les vérités n'en font qu'une. C'est cette vérité des vérités dont j'ai besoin. Je veux y puiser une direction, une foi. Je veux m'en servir pour mon salut. Moi qui ne suis qu'un regard, qu'est-ce que je suis ? Je suis le désir de ne pas mourir. Nous sommes tous toujours le désir de ne pas mourir. Il est innombrable et varié comme la complexité de la vie, mais c'est au fond ceci. Continuer à être de plus en plus, s'épanouir et durer. Tout sert à s'exalter avec de nouvelles sensations. On s'efforce de prendre ce qu'on n'a pas pour se l'ajouter. L'humanité est le désir du nouveau. Sur la peur de la mort. J'évoque encore une fois les faces que j'ai vues ici s'épanouir et se déchaîner. L'une contient le passé, une autre s'azure, une autre songe au soleil, une autre est pleine de la mort qui la dévore. Toutes sont entourées d'une solitude qui commence dans cette chambre, mais qui ne finit plus. Et moi, qui suis comme elle, moi qui contiens l'implacable passé, l'avenir rêvé, la grandeur des autres, moi qui regrette, qui voudrais... Et qui pense, est-il possible que je ne sois rien, quand parfois il me semble que je suis tout? Suis-je rien? Suis-je tout?
Voilà. Ah, c'est bien. Merci, merci.
Voilà, en même temps, c'est très différent que quand on joue. Parce que quand on joue, il y a.
Non, mais bien sûr,
y a des, on n'est pas y a dans des accélérations, il y a des temps plus lents.
C'est pas le même contexte.
C'est pas le même contexte, mais je trouve que c'est aussi intéressant de partager un moment comme
oui,
ça.
Oui, parce que tu. Franchement, moi, je suis allée il y a déjà quelques temps, mais tu donnes de la voix. Hein, c'est,
Voilà, il y a différentes. Il y a différentes registres, il y a différents registres, oui.
Alors, donc, ça se donne au théâtre Le Gymnase.
Au théâtre Le Gymnase.
Le petit Maribel.
Voilà, le studio Maribel.
Tous les lundis à 19h30.
Exactement.
Jusqu'au
18 décembre.
Jusqu'au 18 décembre.
Et je fais aussi deux conférences rencontres gratuites dans deux bibliothèques de la ville de Paris. Le 18 novembre à la bibliothèque Oscar Wilde. Et le 2 décembre, alors ça c'est à 16h, et le 2 décembre à la bibliothèque Charlotte Delbo dans le deuxième. Et ça c'est à 18h, voilà, donc ce sera à la fois sur Henri Barbusse, bon, donc là on est aux 150 ans de sa naissance, et sur l'adaptation théâtrale, voilà.
D'accord.
Le rapport entre le roman et.
Ah, j'essaierai de le mettre sur mon blog, là, le
d'accord,
date des conférences.
Avec plaisir.
Alors, il reste, ça passe vite le temps. Une.
Oui, plutôt Fabienne.
Oui, Fabienne, oui, tu peux nous parler. Oui, on peut passer un morceau de oui, disque.
D'accord.
Lequel
peut-être Femme Flamme.
Femme Flamme.
Qu'est-ce qu'on pense, Nicolas?
Oui.
Attends, c'est le numéro 10. Voilà.
Femme Flamme.
Voilà. Il est très beau ce texte. Et ensuite.
Si on a un peu de.
Oui, bah, si
c'est toi qui écris tes textes.
Oui. Elle est autrice et compositrice, oui.
C'est vrai que ça passe très vite, hein, le temps.
Oui.
Tiens, Manuel, tu me le passes.
Non.
Non.
Et je la dédie aujourd'hui à toutes les femmes qui sont dans cette salle. Femme birmane ou femme afghane, femme d'Orient, femme d'Occident, femme flamenco, femme tango. Femme flamme, Shirin Tienmu Leila Myriam, Maria Joanne Isabelle, femme incendie, femme chandelle, femme flamme. Vous qui savez si bien aimer, vous qui savez si bien donner. Flamme d'amour et de lumière, flambeau de la vie, du mystère. Au-delà de toute frontière, toutes les femmes sont solidaires, unies dans la même prière. Elles donnent la vie, pas pour la guerre. Femme velours, femme de soie, femme cuir ou femme dentelle, la même volonté veille en elle, la même foi. Femme percussion, femme violon, femme poésie, femme chanson, elles aiment au bout de leurs intuitions, de leur passion. De Singapour à Bogota, leur cri d'amour n'a qu'une voix, le miracle de donner la vie. la vie tout son prix. Au-delà de toute frontière, toutes les femmes sont solidaires, unies dans la même prière. Elles donnent la vie, pas pour la guerre. Ah, 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 ah,
ah. Radio Libertaire, 89,4 MHz, dessous de scène, magazine de créatures radiophoniques pour encore 4 minutes, ou peut-être un petit peu plus, puisqu'il me semblerait que Alexis et l'équipe de Bulle de Rêve aient un peu de retard, donc on va pouvoir jouer peut-être un peu de rappel et de prolongation.
Alors Anne, tu nous parles un petit peu de l'actualité théâtrale.
Alors l'actualité, j'ai vu quelques pièces, je préfère en parler d'une spécialement. J'ai toujours aimé le texte, ça s'appelle Cher François et moi et François Mitterrand. Alors, c'est de Hervé Le Tellier. Et en ce moment, c'est joué, c'est un seul en scène par Christophe à l'évêque joué au théâtre Rive Gauche. Moi et cher François, c'est quoi? C'est l'histoire d'Hervé. Ben, il s'ennuie. Il est en 1983 en vacances à Arcachon et il envoie une carte postale. À qui? Eh ben, au président de la République, François Mitterrand, qui est à l'Élysée, bien sûr, pour le féliciter de son élection de 81. Il est un peu en retard, mais bon. Voilà. Et ça, c'est Hervé, il s'ennuie comme un rat mort à Arcachon. Bon, enfin, bref.
Donc, qui c'est qui s'ennuie comme un rat mort?
Hervé, puis sa femme, ça va plus tellement bien avec. Bon, enfin, bref. Et il reçoit quelques mois plus tard une lettre de la présidence. Mais une lettre, c'est pas une lettre manuscrite, c'est vraiment une circulaire. Mais dans son imaginaire, ah, François Mitterrand lui a répondu, mais c'est formidable. Et donc, il continue à lui envoyer des petites cartes comme ça, Hervé, à correspondre avec le locataire de l'Élysée. Et à chaque fois, il reçoit toujours la même circulaire. Donc, à chaque fois, il se dit, ah bah ça y est, il a réglé mes problèmes. Tenez, je vous... Et puis, il nous montre, là, c'est la fameuse circulaire. Et alors, il a réglé ses problèmes avec sa femme, avec son boulot. Enfin, bref. Et puis, malheureusement, un jour, en 96... Eh bien, voilà, il apprend le décès de François, mais il envoie quand même toujours son courrier, et il envoie, bien sûr, maintenant à Jacques. Et puis, il dit, mais il reçoit la même circulaire. Et il dit, mais vous savez, c'est du copier-coller. Il copie. Alors, quand même. Et puis, il dit, mais quand même, j'ai continué à écrire à François, il m'a répondu, il n'est pas mort, c'est pas vrai. Donc, il continue. Alors, Jacques, il lui dit, écoutez, c'est désolant, mais enfin, vous direz bonjour à Bernie de ma part, mais alors vous n'avez pas de bol d'être marié à Bernadette, enfin bref. Il continue comme ça, et il continue. Alors après Jacques, c'est Nicolas. Donc là aussi, Nicolas, il critique aussi Nicolas, mais qui, regardez la lettre, c'est du copier-coller quand même, et puis c'est, non, le style n'est pas bon, alors que c'est exactement la même circulaire depuis 20 ans, quoi. Donc, c'est une histoire sympathique, c'est pas du tout politique, hein, mais c'est sympa, c'est l'imaginaire d'un homme qui il s'ennuie tellement, bah, ma foi, il rêve que des célébrités politiques lui répondent, et sa vie passe comme ça, tout simplement, quoi. Donc, ça se joue au Théâtre Rive Gauche, les mercredis et samedis 19h, à partir de la semaine prochaine, hein, au Théâtre Rive Gauche, et c'est donc Christophe à l'évêque qui fait un seul en scène, et c'est assez drôle. Le texte, moi, il m'a toujours amusé. Je l'avais vu il y a quelques années au Théâtre du Rond-Point avec Olivier Broche. Donc c'était une autre mise en scène, une autre scénographie. Mais là, ça tire la route et c'est amusant. Voilà.
D'accord.
Voilà.
Ok. Eh ben, merci.
Mais je vous en prie.
Anne. On va récapituler. Alors, donc, aujourd'hui, nous avions dans le studio Rémi Carnoche. On applaudit.
Oh ouais. Ouais.
Pour son livre La Palpite à la Fabrique de la Nuit. Et
Derrière la vitre,
rien ne passe. Aux éditions
BHB.
BHB.
Baro.
Évelyne Cole, écrivain, écrivaine, pas bon, enfin bref.
Autrice, écrivaine.
Ah non, j'aime pas autrice, auteur.
Ah bon?
Ah ben parce que ça me plaît pas. J'aime pas le.
Bravo.
Le son.
Le son.
Oui,
parce
que vous n'êtes pas
habitué,
c'est pour ça.
Oui, c'est
oui,
ça.
Oui, mais j'ai le droit de choisir.
Ah oui, 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 oui. On va tiens.
Ah, bah, heureusement, heureusement. Donc, finissons.
On dit auteur.
Voilà.
Enfin, bon.
Voilà. Emmanuelle Granger.
Comédienne.
Donc, comédienne et
auteur.
Auteur.
Autrice.
Autrice.
Voilà, autrice. D'accord. Fabienne Elkoubi, chanteuse.
Oui.
Et metteur en scène,
et regard extérieur sur l'enfer.
Ouais. Sur l'enfer d'Henri Barbusse. Moi, j'ai plutôt envie de dire que c'est un paradis.
Oui, tout à fait. Ben, l'enfer, c'est la fureur de vivre. Ouais. Donc, en fait, c'est. Voilà, c'est l'idée que.
Ben non, il a un regard bienveillant quand même sur les gens. Donc, c'est plutôt du paradis. Hein. Franchement. Bon. Voilà. Enfin, il me semble. Hein.
Oui, oui, tout à fait.
Le titre est un peu.
En fait, c'est plein de vie.
Voilà, exactement.
C'est plein de vie, c'est plein de.
La vie des autres. La vie des autres à travers le.
La vie des autres et sa propre vie.
Ouais.
C'est-à-dire, c'est comment on se sert. C'est toujours la même histoire. C'est comment on se sert de l'expérience, que ce soit l'expérience de l'autre ou l'expérience de soi. Deux personnes qui peuvent vivre une même expérience ne vont pas en faire la même chose. Et ce qui est intéressant au théâtre, c'est l'exemplarité. C'est le fait qu'on pense ensemble. C'est de donner à penser. Et c'est considérer que l'autre qui vous regarde est digne de penser. Voilà, qui peut penser avec vous.
Et si j'ai compris, il traverse la paroi et la vie des autres.
Voilà, et finalement, les spectateurs sont observés, observent, enfin, tout le monde existe. Parce qu'en fait, je parle aux gens qui sont là aussi.
Ah ouais.
Voilà.
D'accord. Redis
l'enfer, jusqu'au 18 décembre, tous les lundis, à 19h30.
Au théâtre du gymnase.
C'est à du gymnase.
Boulevard, Redis Studio, Maribel.
Boulevard Poissonnière, voilà. non
Et Evelyne Tran, qui est autrice aussi.
Auteur.
Ouais, j'ai tellement l'habitude de dire autrice.
Bon, d'accord. Bah,
parce qu'on dit actrice.
Allez,
On dit acteur et actrice. Donc, pour nous, auteur et autrice, c'est beaucoup plus facile. Écrivaine. Du moment qu'on on tient compte du féminin, c'est ça qui est important.
Oui, je suis auteur, mais je ne suis pas que ça. Hein.
C'est lecteuse aussi.
Monde, hein. Bon,
ah, oui. Hein.
Voilà. Mais tu es auteur aussi.
Oui, bon.
Voilà. Tu as un livre qui est disponible actuellement.
J'en ai trois qui sont disponibles à l'heure actuelle. Mais je ne veux pas faire ma promotion, ça ne se fait pas.
Ah, moi aussi, j'en ai trois.
Ah bon? Bah vas-y,
on va
alors.
Discuter. Non, on va discuter en coulisses.
Ce sera pour une autre émission.
Ce sera une autre émission. Hein. Donc, le théâtre Maribel, 38 boulevard, bonne nouvelle.
Voilà. Merci beaucoup. Bon, bah, écoutez, c'était chouette de partager tout ça ensemble.
Evelyne, qui est notre invité la semaine prochaine?
Oui, oui.
Celui-là
ouais. Merci, Nicolas.
Et le. Oui,
merci.
Oui.
Voilà.
Ouais.
Evelyne, la semaine prochaine, on a qui?
Ah, ouais, très bien. Ouais.
Ce petit Raoult.
Voilà.
Ah ben ça manquait un peu de champagne, je comprends pas alors.
Ah bah la prochaine fois, ça porte du champagne.
Mais je vous ai donné de l'eau chaude.
Le studio n'est pas si petit. Moi, je trouve déjà bien ce studio. J'aime bien la chaleur humaine.
La prochaine fois, j'aimerais le champagne, mais ça, je savais pas.
C'est froid.
Oui.